Même audio. Vous ne l'avez pas vu? Vous pouvez l'entendre.
Bonsoir, Jean-François Mignard de la Ligue des droits de l'homme à Toulouse. J'ai été chargé donc d'animer cette réunion débat, c'est une réunion publique débat, qui va se composer de trois périodes, c'est un peu comme la valse, à trois temps. Ça sera un premier temps qui est un temps d'intervention de Caroline, une petite intervention de Caroline qui donnera des éléments de contexte locaux concernant la laïcité et les droits des femmes au regard des mésaventures liées à un vœu qui est un vœu municipal. Donc une petite intervention de Caroline sur cette question-là. Et ensuite, on laissera la parole à notre oratrice sur un temps qui est un temps un petit peu plus long. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, c'est sur laïcité au regard des droits des femmes. Parce que si ce n'est pas là, vous êtes trompé de salle. Voilà, c'est juste, je voulais le préciser. Donc, Marion Augier, qui est avocate, qui est membre du Bureau national de la Ligue des droits de l'homme, et qui assurera donc la plus grosse partie de l'intervention. Ça sera le deuxième temps. Et ensuite, on aura un peu d'espace et de temps pour échanger à partir de cette intervention-là. Voilà. Je vais m'éviter de vous faire une présentation de la Ligue des droits de l'homme. J'imagine que tout le monde connaît. Si vous ne connaissez pas, il y a des éléments à côté de Philippe, là, sur la table, qui présentent, qui donnent des éléments, un peu pour les gens qui ne connaissent pas, de repères concernant cette honorable institution. Voilà. Donc, premier temps, première intervention, Caro, c'est à toi.
Oui. Bonsoir à toutes et tous. Donc, merci d'être présents pour cette réunion publique avec pour thème la laïcité au prisme des droits des femmes. Donc moi, je vais faire très court, c'est juste pour un peu contextualiser et le pourquoi pour nous, on a tenu à mettre en place cette réunion publique et de faire appel à Marion Augier pour aborder le sujet. Juste à titre de propos un peu introductif, rappeler que nous venons de fêter les 120 ans de la loi de 1905, loi de séparation des églises et de l'État. La loi de 1905, à l'époque, est une loi de compromis, mais c'est avant tout une loi d'équilibre qui porte la liberté de conscience, la liberté du culte et qui implique la neutralité de l'État. Ainsi, la LDH a consacré donc son université d'automne, dernièrement, aux 120 ans de la loi de 1905, avec pour sujet laïcité, défendre une loi de liberté. Donc 120 ans, et pourtant la question reste excessivement d'actualité. La laïcité s'invite effectivement régulièrement dans le débat public, au point qu'on peut dire qu'elle est souvent instrumentalisée à des fins politiques pour promouvoir une morale imposée, être au service d'un contrôle administratif, voire politique. Alors, par quoi nous passons? Nous avons la loi dite séparatisme, confortant le respect des principes de la République. Nous avons le contrat d'engagement républicain de la vie démocratique et des associations. Et là, effectivement, je fais de la publicité comme Jean-François. Je vous invite à lire le rapport qui vient de sortir de la LDH Toulouse sur les entraves aux libertés associatives à Toulouse. Ensuite, nous avons effectivement, par rapport à la laïcité, des injonctions à la neutralité. On le voit à l'école, avec une neutralité des agents publics qui s'étend aux élèves. On le voit dans les entreprises privées, on le voit dans le domaine public, on le voit avec les arrêtés du anti-Burkini, avec certaines municipalités qui réitèrent à chaque année. L'interdiction du port du foulard dans le sport, une proposition de loi sur la laïcité dans le sport à venir. Également en débat, l'interdiction du port du foulard pour les parents lors des sorties scolaires. Donc, avec tous ces exemples, je peux dire que l'actualité est donc une laïcité dévoyée aujourd'hui dans des déclarations politiciennes, mais qui vise toujours nos concitoyennes et concitoyens de religion ou de conviction musulmane. On peut constater que le port des signes religieux ne marque pas pareillement les hommes et les femmes. Et il semble que les femmes n'ont pas droit à la protection qu'offre la liberté de penser, la liberté de conscience, la liberté de religion. On le disait au début en introduction, donc c'est une actualité qui est brûlante pour nous, localement, puisque la LDH a engagé un recours judiciaire contre un article du règlement intérieur des piscines municipales de Toulouse, qui interdit donc certaines tenues dont le port du maillot de bain couvrant, pour ne pas dire le burkini. Donc cette action de la Ligue des droits de l'homme, ce recours judiciaire, a fait l'objet d'un vœu en conseil municipal en novembre dernier. Et surtout, au passage, quelques attaques vis-à-vis de la Ligue des droits de l'homme. Alors je souhaitais vous lire un des extraits d'un des élus de la majorité municipale qui porte le vœu. Lors de ce conseil, nous aurons à discuter et à voter un vœu pour la laïcité et la neutralité du service public sportif. Si nous avons à déposer ce vœu, c'est parce que la LDH, tournant le dos une fois de plus à son passé glorieux, la LDH demande à ce que le birkini soit autorisé dans les piscines municipales toulousaines. Notre position sur ce point est franche et claire. Le birkini en tant que tel, non seulement pose une question d'hygiène publique, mais bien au-delà et plus fondamentalement, pose un problème de respect de la laïcité et d'égalité et de dignité des femmes. Donc, je ne sais pas si vous voulez connaître le vœu qui a été voté. Je vous le... OK. Article 1. Le Conseil municipal de Toulouse réaffirme son engagement à défendre les valeurs républicaines, au premier rang desquels le principe de laïcité au sein des espaces municipaux. Article 2 condamne les positions défendues par la LDH qui soutient le déploiement du communautarisme religieux dans les lieux de service public et viole la neutralité. Article 3 demande à l'Assemblée nationale d'examiner dans les meilleurs délais la proposition de loi interdisant le port du voile dans les activités sportives. Donc, face un peu à cet événement, à ce qui s'est tenu et les propos qui ont été tenus lors du conseil municipal, c'est vrai que nous, on a tenu à mettre en place cette réunion publique afin de pouvoir un peu reprendre tout ceci. Et ça, donc, je passe le relais à Marion Augier qui va reprendre un petit peu pour nous. Merci.
D'abord, un grand merci. Merci pour cette invitation. Alors, je viens de Paris, alors autant vous dire, je suis très heureuse d'aller dans le sud, de venir... dans cette magnifique ville et dans cette, surtout dans cette très belle salle. J'ai appris qu'elle était en plus chargée d'histoire. Donc, un grand merci pour cette invitation. Invitation, en effet, dans un contexte, alors un contexte local, d'une part, mais un contexte aussi national, qui, je pense, nous interroge et doit nous amener à avoir une réflexion sur ce qu'on connaît aujourd'hui, à savoir un débat public qui est marqué sûrement chaque jour par la question de la laïcité, le point de savoir si notre laïcité est en danger. Mais en réalité, moi, ce qui m'interroge le plus, c'est ce que les gens entendent par laïcité. Puisque j'en parle beaucoup devant les tribunaux, devant des institutionnels, devant le grand public, et je me rends compte que souvent nous ne sommes pas très bien au clair sur ce que signifie en tant que telle la laïcité. Et puis on m'a demandé de parler de femmes, de droits des femmes, parce qu'on y reviendra aujourd'hui, s'il y a des personnes qui souffrent le plus de ce dévoiement que tu as évoqué de la laïcité, c'est en particulier les femmes, et on y reviendra. Tu as souligné que ce qu'on avait fêté le 9 décembre dernier, les 120 ans de la laïcité, ce qui a donné lieu à de nombreuses célébrations, débats, colloques, et c'est vrai que beaucoup de ces célébrations, beaucoup de ces colloques ont mis en avant une chose, c'est que depuis en 120 ans, la laïcité, là où normalement le temps aurait dû amener à la consolider, eh bien en 120 ans, en réalité, elle s'est fragilisée. Et fragilisée au point qu'on parle même de dévoiement de la laïcité, D'autres parlent de nouvelle laïcité. Alors, je reviendrai, mais moi, je suis vent debout sur cette notion de nouvelle laïcité. Pourquoi ? Parce que la laïcité, celle qu'on a aujourd'hui, celle qui régit notre société, eh bien, elle trouve son origine et toujours son assise dans une loi, qui est une loi du 9 décembre 1905, qui n'a pas bougé, ou du moins très à la marge, mais en tout cas, le cœur de cette loi est toujours d'actualité. Du coup, ça m'effraie d'entendre parler de nouvelle laïcité, là où je ne comprends pas d'où vient cette nouveauté, hormis dans les textes. Mais il y a une laïcité dans les têtes, il y a une laïcité dans les textes, et en tant qu'avocate, juriste et membre de la Ligue des droits de l'homme, eh bien, notre référence, notre seule boussole, c'est la loi de 1905, cette loi relative à la séparation des églises et de l'État, une loi qui s'articule, qui est, tu disais, une loi équilibrée, tout à fait. C'est d'abord une loi de liberté. Et pour assurer ces libertés, c'est une loi équilibrée. On ne va pas revenir sur les épisodes tumultueux qui ont précédé l'adoption de cette loi, mais il n'en reste pas moins que cette loi avait une vision qui était de pouvoir permettre le maintien des principes qu'elle garantissait en dépit des évolutions que pourrait connaître notre société. C'est aujourd'hui ce qui fait que certains considèrent qu'il faut refaire, il faut revoir la loi de 1905. C'est toujours un débat qui revient régulièrement. Alors, qu'est-ce que nous dit cette loi de 1905 ? Elle a deux jambes, on va dire, hein, pour l'humaniser encore plus qu'elle l'est déjà. Eh bien, elle a une première jambe qui trouve son assise dans l'article 1er de la loi de 1905, qui est que la République garantit la liberté de conscience et le libre exercice des cultes. Donc c'est la liberté, c'est l'article premier, c'est la liberté de croire, c'est la liberté de ne pas croire, c'est la liberté d'avoir une religion, de ne pas en avoir, de changer de religion si on le souhaite, c'est la liberté d'exercer son culte, de décider de ne pas l'exercer, c'est la liberté. C'est l'article premier, c'est la liberté, et j'insiste. Et puis, pour que cette liberté, elle soit pleine et entière, et c'est là où vient l'équilibre, eh bien, il y a cette deuxième jambe. Cette deuxième jambe qui est le deuxième article de la loi de 1905 qui nous dit que la République ne reconnaît ni ne subventionne aucun culte. Et c'est donc la neutralité de l'État, on y reviendra plus largement peut-être, des collectivités publiques. Aujourd'hui, ceux qui l'incarnent sont les fonctionnaires, les agents publics. Mais c'est donc la liberté de l'État, la neutralité de l'État, une neutralité qui signifie aussi égalité, c'est-à-dire que l'État doit se tenir à équidistance de toutes les personnes. L'État ne doit pas faire un traitement privilégié selon l'appartenance culturelle ou alors selon que la personne est croyante ou non croyante. Et donc, on parle d'un triptyque, souvent les juristes parlent d'un triptyque très proche de notre devise républicaine, mais pas tout à fait, qui est d'abord la liberté, l'égalité de chacun et chacune, indépendamment de ses convictions. Et puis, enfin, la neutralité, puisque c'est la deuxième jambe, la neutralité de l'État et, de manière générale, de la collectivité publique pour assurer la liberté de chacun et de chacune de croire, de ne pas croire et d'exercer son culte. Et donc, c'est ça, notre loi de 1905, c'est assez simple, c'est un équilibre et c'est une loi de liberté, puisque, comme je vous l'ai dit, la règle, c'est la liberté de chacun et chacune. On y reviendra dans certaines limites. L'article premier parle de l'ordre public, qui est la limite. Et on y reviendra parce que je crois que cette notion d'ordre public qui s'élargit un peu plus aujourd'hui justifie déjà aujourd'hui, mais justifiera encore un peu plus demain, des restrictions à cette liberté. Mais en tout cas, cette loi semble claire. Et pour autant, on parle pour beaucoup de dévoiement de cette laïcité. Dévoiement peut-être qui intervient sur la base de trois phénomènes. Le premier, c'est d'abord un mouvement qu'on connaît bien, qu'on a documenté. La Ligue des droits de l'homme, si vous la connaissez, revient chaque année sur cette question qui est la réaffirmation par certains et certaines d'une identité judéo-chrétienne de la France. Et donc cette volonté de réaffirmer l'identité française, la racine judéo-chrétienne, c'est précisément ce discours qui justifie aujourd'hui qu'il y ait chaque mois de décembre, des crèches qui s'invitent dans les hôtels de ville, ce qui est prohibé par l'article 28 de la loi de 1905 qui dit que dans les établissements, dans les institutions publiques, dans les emplacements publics, il ne peut y avoir de signes religieux. Parce que, pourquoi ? Parce que c'est la neutralité, vous vous rappelez de ce qu'on vient de se dire. Et donc, pour autant, chaque année, et de plus en plus, souvent un peu dans les mêmes communes, il y a cette volonté de réaffirmer par la position de crèche, par la position de signe religieux, les racines judéo-chrétiennes de la France. Et d'ailleurs, ça a fait à plusieurs reprises l'objet de propositions de loi constitutionnelle pour modifier notre constitution, qui, en l'état, en son article premier, consacre la République laïque. Et donc, l'idée d'une partie de ces élus, de ces personnalités politiques, est d'introduire dans la Constitution les racines judéo-chrétiennes. Ça, c'est le premier phénomène, c'est-à-dire un phénomène qui a pour objet de remettre en cause la neutralité de l'État pour asseoir la consécration des racines judéo-chrétiennes de la France. Le deuxième phénomène que je vois, c'est, de manière générale, dans le débat public, on ne sait plus très bien ce que signifie que la laïcité, on oublie qu'elle est d'abord la liberté, et on entend beaucoup l'idée d'un principe de discrétion dans l'espace public. C'est quelque chose qui revient, qui s'impose, et que beaucoup de gens, aujourd'hui, admettent, acceptent, qui est de dire on doit être discret. Alors ça signifie qu'on ne peut pas afficher des signes qui manifesteraient ostensiblement une appartenance religieuse. Ce principe de discrétion, il est parfois affirmé par certains élus, élus ou non élus, candidats à la présidentielle. Pour ne pas le nommer, à M. Zemmour, qui affirmait qu'il y avait un principe de discrétion dans l'espace public. Je serais curieuse de l'interroger sur là où il l'a vu dans la loi de 1905, parce que je la connais, je l'ai relue, je ne le vois pas. Donc ce principe de discrétion n'existe pas, mais pour autant, c'est dans le débat public quelque chose qui revient régulièrement au point de parfois un peu convaincre et en tout cas rentrer dans les têtes pour ensuite mieux faire accepter des restrictions à la liberté. Et puis, le troisième phénomène, c'est un phénomène qui est réel, qui n'est pas pour le coup, je pense, identitaire, à la différence peut-être des deux premiers. C'est la lutte contre une menace qui est réelle, que je ne nie pas, qui est la menace islamiste. Et elle est évidente, elle est certaine. Et c'est ce troisième phénomène consiste à dire qu'aujourd'hui, la lutte contre la menace islamiste doit nous mener à être très vigilants sur toutes les formes de radicalité, de radicalisation religieuse. Jusqu'ici, je pense qu'il n'y a pas forcément de difficulté majeure, mais, et j'y reviendrai, la difficulté étant qu'aujourd'hui, l'exercice d'un culte peut être considéré comme une forme de radicalisation. J'ai plein d'exemples. Je suis avocate et j'ai des dossiers pour lesquels des personnes sont éloignées de l'espace public. Par exemple, pendant les Jeux Olympiques 2024, des personnes ont été assignées à résidence ou des personnes se sont vues retirer leurs autorisations aéroportuaires. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une présomption de radicalisation. Et quand on voyait le dossier, qu'est-ce qu'on reprochait à ces personnes ? Eh bien, d'avoir une barbe trop touffue ou alors d'avoir une maman ou une sœur qui portait le foulard. Et là, on a une petite difficulté. Parce que lutter contre la menace islamiste, c'est une chose, et il ne faut, à mon sens, pas la remettre en cause, mais considérer que l'exercice du culte musulman en soi constituerait une forme de radicalisation qui permettrait de prendre à l'égard de ces personnes des mesures de restriction de liberté, là, je crois qu'il y a une limite qu'on franchit un peu trop vite et qui, à mon sens, peut générer des très très grosses difficultés tant pour ces personnes que pour notre société. Et donc c'est à la faveur de ces trois phénomènes qu'aujourd'hui on constate un dévoiement de la laïcité avec cette idée qui quand même irrigue largement le débat public qui est de laisser croire que l'exercice du culte musulman permettrait de faire un lien avec soit le séparatisme, soit le communautarisme, soit l'entrisme islamique, puisque c'est aujourd'hui les trois termes qui reviennent régulièrement, et que au nom de ces risques, eh bien, il faudrait revoir le principe de laïcité pour, d'une certaine manière, faire face à ces risques. C'est en tout cas l'idée de ce qu'on entend actuellement et de ce qui s'implante. Ce n'est pas que de l'entendre dans le débat, c'est concrètement, ça prend, et j'y reviendrai aujourd'hui, ses racines dans nos lois et dans les droits des uns et des autres. Alors, si j'en viens aux femmes, de manière générale, pourquoi la femme, indépendamment de la question religieuse, si on prend un peu plus de hauteur, j'aime beaucoup les propos d'une sociologue qui s'appelle Rosie Bredotti, qui écrivait « Le corps des femmes, immigrées ou non, devient le lieu où les conflits de civilisation atteignent l'état le plus aigu et le plus déchirant. N'oublions pas qu'aujourd'hui, l'Empire américain justifie ses guerres commerciales au nom de la libération des femmes. » Elle a écrit ça il y a 40 ans. « Et que les cultures musulmanes combattent les leurs au nom de leur refus de la vision occidentale de ce que serait une femme libérée. Aucune des deux ne tient compte des pratiques politiques et morales du gouvernement des femmes dans le monde ces 30 dernières années. » Il y a cette question sur le corps de la femme, immigrée ou non, mais revenons à notre sujet. Il y a de manière générale, et tu le disais à l'instant, le fait que les religions marquent les hommes et les femmes de manière différente. Physique, d'abord, parce qu'on pense dans de nombreuses religions, à la couverture de la chevelure, qui n'est pas le monopole de la religion musulmane. Et en plus, on sait très bien qu'au sein même de la religion musulmane, cette question de la couverture de la chevelure n'est pas forcément une règle. En tout cas, il y a des questions là-dessus, mais ce n'est pas notre problème. Et pourquoi ce n'est pas notre problème? Pourquoi ce n'est pas notre problème de savoir si une religion impose ou pas une telle règle? Simplement pour une chose, c'est parce que dans la loi de 1905, rappelons que le titre, c'est la séparation des églises et de l'État. Et ça implique aussi une chose, c'est que l'État n'est pas là pour juger ce qui est du religieux, ce qui n'est pas du religieux, ce qui est justifié par une religion ou pas. Ça ne nous intéresse pas, en tout cas, ça n'intéresse pas ni la société, ni l'État. C'est une question de liberté individuelle. Et je parlais de marqueurs religieux, je pense évidemment aux foulards ou autres, mais de manière générale, il y a une place dans la société, les femmes, la place des femmes dans la société est aussi liée à la sortie des sociétés d'un modèle traditionnel vers une post-modernité. Et la question du corps des femmes, la question des droits des femmes, la question de leur place de manière générale dans la société est évidemment montre que les femmes, il y a quelque chose de particulier autour d'elles, qu'il n'existe pas chez les hommes. Et c'est précisément la raison pour laquelle la religion, la place de la religion dans la société, la sécularisation, la laïcité, eh bien, vont se constituer autour de la femme. Parce que depuis 35 ans, en réalité, et c'est l'idée aussi de cette démonstration, eh bien, il y a un bras de fer idéologique qui se construit autour de la femme, et en premier lieu, autour de la femme musulmane. 35 ans. Pourquoi dis-je 35 ans? Je pense que de nombreux parmi vous ont en tête ce qui s'est passé il y a plus de 35 ans, le 18 septembre 1989, c'est l'exclusion de trois jeunes femmes dans un lycée de Creil. Et c'est donc l'affaire qu'on connaît bien sous le nom des foulards de Creil. Je pense que même les plus jeunes d'entre vous connaissent cette histoire, histoire d'un conflit, a priori un conflit qu'on connaît, qui revient, un conflit entre l'anticléricalisme et le cléricalisme, un conflit qui vient quand même diviser la gauche sur cette question. On parle même à l'époque de Munich, de l'école républicaine, c'est-à-dire une dissension dans la société qui prend un rang médiatique, une inflation idéologique maximale, et qui consiste à avoir ce débat sur la place du religieux dans l'école. Que faisons-nous face à ces femmes, ces jeunes filles plutôt, puisqu'on est, on est au lycée, je crois, à ces jeunes filles qui portent le foulard à l'école. Il y a une forme de consensus, même si qui n'est pas partagée, mais qui est de dire que le religieux ne doit pas s'inviter à l'école. La dissension, elle n'est pas sur le point de savoir si le religieux doit s'inviter à l'école. La dissension, elle est sur la question de savoir qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on exclut ? Ou alors, est-ce qu'on préfère des écoles sans foulard, mais quand même des écoles avec des élèves ? Et sur ce débat, il y a quelque chose qui se crée dans notre société avec cette idée de à quel point la laïcité justifie une position tolérante vis-à-vis du religieux à l'école, ou au contraire, est-ce qu'elle impose qu'on soit ferme sur la question et de dire qu'il n'y a pas de religieux à l'école, pas de religion à l'école. On parle beaucoup de sanctuaire. Et Marie-Christine Vergia de la Ligue des droits de l'homme me disait dernièrement, Marion ne parle surtout pas de sanctuaire, puisque l'école n'est pas un sanctuaire. On n'est pas robotisé quand on vient à l'école. On est à l'école et on a notre culture, on a ce qui nous distingue, on a nos traits de personnalité, on a notre éducation, on a nos différences. Et l'école doit s'enrichir de cela aussi. Bon, le débat à l'époque s'est terminé sur un avis du Conseil d'État qui avait été sollicité par le Premier ministre. Et le Conseil d'État dit une chose qu'il redira ensuite à plusieurs reprises. C'est que le port d'un signe qui manifeste ostensiblement une appartenance religieuse, le port d'un signe religieux, y compris à l'école, nous sommes avant 2004 évidemment, eh bien, n'est que la traduction de la liberté d'exercer son culte, qui est lui liberté consacrée par l'article 1er de la loi de 1905, et donc ce n'est que l'exercice d'une liberté. Et puis vient 2004. Il s'est passé des petites choses entre-temps. Évidemment, il y a des questions, il y a des débats sur la laïcité à l'école, notamment la question de savoir si des élèves peuvent demander à ce que le vendredi, il n'ait pas cours pour des questions religieuses. J'ai peut-être oublié de dire quelque chose quand même cardinal sur la laïcité. C'est que la laïcité, ça reste quand même un principe suivant lequel on ne peut pas se dispenser de respecter les règles qui régissent notre société au nom de nos convictions religieuses. Ça reste quand même le cœur de la laïcité. Et donc, on arrive quand même assez vite à 2004. On parle beaucoup de 2004. 2004, vous l'avez en tête, je l'imagine, loi du 15 mars 2004, relative à la question de la laïcité dans l'école publique. On parle beaucoup de 2004, mais en réalité, si on regarde bien, tout se joue un petit peu avant. Puisqu'en 2003, les débats qui précèdent la loi de 2004, il y a des débats, mais il y a quelque chose qui déjà en fait annonçait le futur. Et je pense notamment à une tribune de M. Barouin, qui est publiée dans le Figaro, qui s'accompagne d'un rapport sur la question. En 2003, il y a ce discours qui va mener notamment à la loi de 2004, mais ce n'est pas ce seul discours qui mènera à la loi de 2004. Mais ce discours est celui-ci, et moi, ce qui m'étonne, c'est à quel point il a son actualité aujourd'hui. Ce discours consiste à dire, si je prends les grands points de cette tribune, des guerres sont à nouveau menées au nom de Dieu, d'abord par l'islam, hein, c'est ce qui est écrit dans la tribune, hein, et que le port du foulard est forcément un geste revendiqué au nom de cette volonté d'imposer une idéologie musulmane dans notre société. Et la liberté, qui est celle consacrée par la loi de 1905, est une porte ouverte au fondamentalisme qui justifie une redéfinition de la loi de 1905 et du principe de laïcité. Nous sommes en 2003. Cette tribune aurait pu être écrite hier. Et cette tribune, ce n'est pas que cette tribune, hein, c'est ce qu'il y a autour de cela. 2004, loi du 15 mars, ouvre une brèche. Alors, la question n'est pas de savoir si on est pour ou contre cette loi de 2004. Je sais qu'à la Ligue, bizarrement, il y avait, je pensais qu'il y aurait beaucoup de dissensus autour de cette loi, et bien pas tant. Mais au final, la question n'est pas tant de savoir si cette loi de 2004 doit être remise en cause. La question est de savoir quel est le futur qu'elle a ouvert. Donc cette loi de 2004, vous le savez, elle interdit, et la formule est importante, elle n'interdit pas les signes religieux à l'école publique. Elle interdit tout signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. Ce qui déjà réduit largement les personnes qui sont concernées, en tout cas les signes qui sont concernés par l'interdiction. Et c'est évidemment en premier lieu le foulard qui est évidemment ciblé par cette loi, pas que, on y reviendra, mais c'est notamment cela. Et cette formule, les signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse, c'est la formule qui arrive en 2004, mais qui va revenir tout le temps. Et je vais y revenir aux absurdités auxquelles on assiste aujourd'hui. Ce qui est peut-être rigolo, c'est d'avoir en tête que lorsque la loi de 1905 a été adoptée, Aristide Briand avait indiqué que l'idée n'était pas de faire de la police du vêtement. Il disait, si on commence à interdire des vêtements, eh bien, les gens seront toujours assez créatifs pour finalement avoir un autre vêtement qui ne sera pas lui interdit, mais qui finalement traduira la même chose. Et donc, Aristide Briand disait, ça n'a pas de sens d'interdire de faire de la police du vêtement. Nous sommes tombés dans la police du vêtement. Mais donc, cette loi de 2004, je disais qu'elle ouvrait une brèche. Une brèche parce qu'en réalité, à partir de 2004, et là, on a sûrement moins les choses en tête, mais il y a une accumulation de restrictions de cette liberté et une hypertrophie du principe, le principe de neutralité. Je vous disais tout à l'heure, liberté, égalité, neutralité. Aujourd'hui, la neutralité a gonflé, la liberté a réduit, enfin s'est réduite, et en témoigne notamment la loi de 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public, l'affaire 2014 dite Babylou qui concerne la question du port du foulard dans les crèches Babylou, mais cette affaire donnera lieu à une loi de 2016, loi travail, qui autorise les entreprises à réglementer le port de signes religieux et à interdire dans certaines conditions, à condition qu'elles soient nécessaires, justifiées, proportionnées, le port du foulard, puisque c'est essentiellement, encore une fois, lui qui est concerné. En 2016, c'est la première affaire Burkini sur les plages. Que se passe-t-il en 2016? Eh bien, il y a certaines plages de Corse sur lesquelles des femmes se baignent en burkini, et cela donne lieu à des interdictions du burkini sur les ports des plages, sur les plages, pardon. Et à la première décision du Conseil d'État, j'y reviendrai probablement sur la question du burkini, Conseil d'État qui dit une chose très claire, c'est que les maires n'ont pas la police du vêtement. Les maires ne peuvent intervenir que lorsqu'il existe un trouble à l'ordre public, et que, en soi, le fait de porter un burkini n'est pas un trouble à l'ordre public, et qu'il faudrait démontrer que cela génère un trouble à ce point grave que l'interdiction serait la seule réponse adaptée. Pour le moment, ça n'est jamais arrivé, c'est-à-dire qu'il y a de très nombreux arrêtés qui interdisent chaque année encore. On en a au moins 3 par an. Alors que bon, 2016, c'est loin, ça fait 10 ans, hein, la loi est bien connue, mais certaines municipalités maintiennent hein, cette pratique qu'elles savent parfaitement illégale, mais par principe, à Mandelieu-la-Napoule, chaque année, eh bien, le burkini est interdit, et puis la Ligue des droits de l'homme fait des recours, et puis à chaque fois, elle gagne, mais il n'en reste pas moins que cette pratique se maintient. Loi 2021, la loi qu'on connaît souvent sous le nom de loi séparatisme, loi du 24 août 2021, c'est la loi confortant les principes de la République, a largement limité le principe la liberté. C'est un peu passé, inaperçu, mais pour la première fois, le secteur privé qui participe à l'exécution d'un service public, une notion extrêmement large, J'ai été chargée de TD à Paris 1. Il fallait un trimestre pour définir la notion de service public. C'est pour vous dire à quel point ça peut donner lieu à beaucoup d'interprétations. Et donc aujourd'hui, cette loi de 2021 interdit, en tout cas soumet au principe de neutralité, les salariés du privé ou en tout cas des associations qui participeraient à l'exécution du service public. Et puis 2024, rappelez-vous du ministre de l'Éducation qui interdit l'abaya dans les écoles. Avec cette question, c'était intéressant, cette question de est-ce que c'est un signe religieux, l'abaya ? Et le Conseil d'État s'est prononcé sur la question. Le Conseil d'État redit une chose, mais la loi de 2004 n'interdit pas les signes religieux. La loi de 2004 interdit les signes et les tenues par lesquels des personnes entendent manifester une appartenance religieuse. C'est précisément cette formule de la loi de 2004 qui aujourd'hui fait que des infirmières sont licenciées, révoquées, parce qu'elles portent une charlotte ou un calot et que le port de ce calot ou de cette charlotte par des femmes supposément musulmanes, parce qu'arabes, faut le dire, eh bien justifie aujourd'hui que ces femmes sont présumées avoir méconnu le principe de neutralité. Et on en vient à chercher aujourd'hui si vous avez un chapeau un peu trop souvent, un bandana, je ne sais quoi, eh bien cette chasse à l'intention que vous avez parce que vous êtes supposément musulmane et cette question qui est de savoir si en réalité vous n'avez pas entendu méconnaître le principe de neutralité ou l'interdiction du port de signes manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. Et puis plus récemment, la loi sur le sport, la loi qui s'intitule la loi sur la laïcité dans le sport, elle aurait mieux fait de s'intituler la loi sur la neutralité dans le sport, puisque cette loi a deux articles. Le premier, c'est d'interdire Alors, cette loi, d'ailleurs, est très intéressante. Très intéressante sur deux points, c'est qu'on voit qu'on a passé un cap. C'est-à-dire que en premier lieu, cette loi, lorsqu'on lit le rapport, ne parle plus de signes manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. Seul le foulard, seul le hijab, seul le foulard islamique, comme il est mentionné dans la loi, est ciblé. Donc il y a aujourd'hui, on a abandonné cette forme d'hypocrisie pour finalement admettre que ce n'était bien que le foulard musulman, islamique, qui était concerné. Et puis dans cette loi, il y a aussi autre chose. Et je vous invite à lire ce rapport qui accompagne cette loi. Il y a une pyramide, un schéma qui apparaît dans ce rapport. Donc cette loi, elle a été adoptée par le Sénat le 19 février dernier, en 2025, en 2025, mais elle est encore en cours d'examen et l'Assemblée nationale, pour le moment, elle n'est pas encore au calendrier, mais l'Assemblée nationale pourrait avoir à voter cette loi. Dans le rapport qui accompagne cette proposition de loi, il y a une pyramide. Une pyramide qui est composée de plusieurs socles avec deux flèches ascendantes. Le premier socle est principe de la République, laïcité. Très bien. Deuxième socle, neutralité, cadre de référence dans le sport. Cadre de référence si la loi est adoptée, puisque pour le moment, ça reste encore le principe de liberté. Premier niveau, la permissivité. Deuxième niveau, avec ces flèches qui relient les différents niveaux entre eux. Deuxième niveau, le repli communautaire. Troisième niveau, le séparatisme. Quatrième niveau, la radicalisation. Cinquième niveau, le terrorisme. Cette pyramide est dans un rapport qui a été établi par des députés et des sénateurs. Et cette pyramide ne se cache plus. On fait aujourd'hui un lien entre le port du foulard et, en passant par le repli communautaire et le séparatisme, mais ce lien est fait avec la radicalisation et le terrorisme. Et là, je crois qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé et qui est extrêmement dangereux. Mais je ne sais pas si tout le monde comprend ce que ça signifie, mais ce que ça signifie, c'est que on a, je pense, passé le cap d'admettre une stigmatisation totale et une mise au ban des femmes, des femmes musulmanes, avec un discours, un narratif qui diffère. Soit ce sont, en général, ce sont des femmes qui sont opprimées, qui opprimées par leurs frères, par leurs oncles, par leurs pères, on a tous entendu ces propos, qui sont dans des communautés, et c'est donc du communautarisme qu'aujourd'hui de s'exprimer en tant que femme musulmane. Et puis, lorsque ces femmes qu'on considère être des victimes d'un patriarcat islamiste, lorsque ces femmes veulent s'émanciper et intégrer les phases, les sphères d'émancipation de la société, je pense notamment au sport, je pense notamment à un collectif de jeunes femmes qui est dénommé Hijabeuses. Ce sont des femmes qui ont marqué l'actualité en 2023 parce que ce sont des sportives. Sportives qui avaient l'interdiction de porter un foulard adapté à la pratique du sport pendant les compétitions sportives devant la FFF, la Fédération Française de Football. Ces femmes ont fait un recours. Ces femmes, ce sont des jeunes femmes, étudiantes, certaines infirmières, et c'est rigolo parce que cette infirmière me disait bah, « Moi, déjà, tous les jours, je retire mon foulard pour aller travailler, mais je considère que le loisir, eh bien, je ne comprends pas pourquoi je devrais être soumise à un principe de neutralité. Je ne suis pas fonctionnaire quand je prends part à une compétition sportive. Et donc, je considère qu'il y a là une forme de discrimination puisqu'on nous refuse l'accès au terrain si on a ce foulard adapté à la pratique du sport. Et donc, elles ont mené un contentieux. C'est-à-dire qu'elles se sont montrées. Elles se sont pris la parole dans la presse. Elles ont fait des débats pour dire qu'elles considéraient qu'elles avaient le droit de porter le foulard parce que ce n'était que le principe de laïcité, à savoir le principe de liberté. Et ces femmes, aujourd'hui, elles sont mentionnées dans un rapport comme ayant fait de l'entrisme islamique parce que, exiger en tout cas, parce que se battre pour faire reconnaître le droit à porter un foulard en France est considéré finalement aujourd'hui comme une forme d'entrisme. Donc, si vous êtes une femme musulmane, vous avez le choix entre être une communautariste qui doit rester chez elle, ou alors si vous voulez enfin vous émanciper dans les espaces auprès des unes et des autres qui ont chacune leurs croyances et leur culture, eh bien, vous êtes stigmatisée au nom de l'entrisme islamique. En tout cas, c'est les frais qu'elles ont faits. Or, peut-être avoir sur cette question du sport qui, moi, me passionne. Elle me passionne parce qu'il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que c'est une exception française. Aucun pays n'interdit le port d'un couvre-chef adapté à la pratique du sport dans les compétitions. Et d'ailleurs, non seulement aucun pays ne l'interdit, mais en réalité, c'est autorisé par les plus hautes sphères, à savoir la FIFA au niveau du football international, de même pour le basket au niveau international, c'est clairement autorisé. Il y a eu des phases d'expérimentation pour pouvoir intégrer ces femmes musulmanes. Il a été montré que le port d'un foulard adapté à la pratique du sport, un couvre-chef adapté, ne posait aucune difficulté, qui pouvait parfaitement se coordonner avec les règles du jeu. Et ces fédérations internationales ont considéré qu'il n'y avait pas de difficulté. D'ailleurs, si on regarde un peu vers les Jeux Olympiques, je peux vous citer 25 femmes qui ont concouru. Alors, mes chiffres datent avant 2024, donc ils ne sont pas à jour, mais il y avait, en tout cas avant 2024, 25 au minimum, j'insiste sur le minimum, femmes, dont des médaillées, qui ont concouru aux Jeux Olympiques avec un foulard adapté à la pratique du sport. Donc, c'est bien une exception française, soyons très clair là-dessus, et une exception qui ne touche que les femmes. Parce que les tatouages des hommes qui manifestent des convictions religieuses, eux ne sont pas mis en cause. Parce que lorsque ça concerne des joueurs professionnels qui parfois même représentent l'équipe de France, lorsqu'ils font un signe de croix, ou en tout cas un signe qui manifeste ostensiblement une appartenance religieuse, et bien là, il n'y a aucun problème. Ce sont toujours les femmes qui sont visées, qui sont interdites aujourd'hui d'avoir accès aux espaces d'émancipation. Je pense au sport, je pense à la piscine. Ce n'est pas rien. On parle Il y a 1 million plus ou moins de musulmans dans ce pays, donc on va dire la moitié de femmes pour être schématique, 500 000 femmes. Il y a un tiers des femmes qui déclarent porter le foulard. Et dernièrement, un ami m'a dit « Ah, mais moi, le foulard, ça ne me pose pas de problème, mais le burkini, oui. » Et je lui ai dit « Mais crois-tu que... » En fait, tu parles des mêmes femmes. Tu parles des mêmes femmes. Hein. Les femmes qui portent le foulard, souvent, habituellement, portent le burkini. Il n'y a pas plus de radicalisation à porter le burkini qu'à porter le foulard. Bref. Mais en réalité, on a tous le droit d'avoir notre avis sur la question du foulard. Ne confondons pas le foulard et les femmes qui le portent. Parce que si certains dans ce pays peuvent dire encore « Abat le voile », ce dont on parle là, ce n'est pas du voile, ce sont bien des femmes qui le portent. Et ce sont des femmes qui, aujourd'hui, sont discriminées. Aujourd'hui, on ne parle pas assez de toutes les femmes qui indiquent avoir fait l'objet de crachats dans la rue, d'injures, parce qu'elles portent un foulard. C'est une réalité. Et c'est une réalité dont on ne parle plus parce que, parce qu'en général, elles ne sont pas invitées à en parler. Et puis, lorsqu'on parle d'elles, dernièrement, même en positif, j'étais très étonnée, j'écoutais France Inter et il était fait le portrait d'une femme auto-entrepreneuse qui avait énormément de succès dans son activité. 5 fois d'affilée, il a été dit que « Mais vous portez le foulard ». Alors, simplement, vu qu'on parle de femmes, moi je voudrais qu'on parle de femmes qui peuvent faire du bénévolat et peuvent avoir leur portrait dans une commune comme à Strasbourg, sans que ça fasse l'objet de polémiques parce qu'on a mis le portrait d'une femme portant le foulard dans des espaces publics alors que cette femme, eh bien, on la valorisait parce que c'était une bénévole de la ville de Strasbourg. On a des femmes qui sont musulmanes, qui portent le foulard et qui sont des travailleuses, des entrepreneuses, des mères qui voudraient pouvoir aussi pouvoir participer aux sorties scolaires sans que ça ne fasse de polémique, des femmes qui voudraient prendre part dans le débat public, dans les élections municipales notamment, qui approchent. Et à Chalon-sur-Saône, il a déjà été décidé très récemment d'interdire le port du foulard pour les élus qui souhaiteraient prendre leur part dans le débat public. Je crois simplement que ces femmes sont des femmes. Et c'est tout ce qui compte.
Comme annoncé, je vous propose... Merci, Marion.
Même audio ? Une mémoire sonore ?